Les portes ouvertes de l'Université de Tours, c'est en direct sur Radio Campus Tours.
Bonjour, nous sommes actuellement à l'IUT de Tours. Nous vous recevons dans le cadre d'une émission en rapport avec les journées portes ouvertes. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2026 et nous allons faire des émissions, nous allons faire des décryptages, nous allons faire des interviews. Restez connectés avec nous toute la journée.
Merci Rachid pour ce lancement d'émission. Donc on rappelle qu'on a la chance parmi nos bénévoles d'avoir des étudiants internationaux. Alors je crois que tu es en sciences du langage.
Oui.
Comme tu viens de l'annoncer, on a un programme d'interview qui dure toute la journée. Alors pour ouvrir cette émission en direct de l'IUT, eh bien, nous recevons Philippe Roingeard. Bonjour Philippe Roingeard.
Bonjour.
Donc vous êtes président de l'Université de Tours et à côté de vous, Jean-Philippe Agresti. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vos auditrices et vos auditeurs, merci de nous recevoir.
Et donc vous êtes recteur de l'Académie d'Orléans-Tours. Alors peut-être une question tout d'abord pour nos auditeurs et auditrices fidèles. Un président d'université élu, un recteur d'académie nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres, qui se trouve aussi être chancelier des universités. Alors voudriez-vous clarifier pour nos auditeurs les missions qui sont les vôtres, vos champs d'action et prérogatives? Est-ce qu'il y a un rapport de subordination entre vos deux fonctions?
Alors, effectivement, le recteur est nommé en Conseil des ministres. Il est recteur de région académique et chancelier des universités. Et c'est à ce titre qu'il travaille en collaboration avec les présidents d'université et directeurs d'école. C'est le cas avec le président de Tours. Il n'y a évidemment pas de rapport de subordination, mais le recteur est le représentant de l'État dans le champ de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de l'espace et des sports. Et il joue un rôle à la fois de contrôle de l'égalité des actes de l'université, de contrôle financier de la trajectoire budgétaire des universités, mais il joue aussi un rôle, j'allais dire, de conseil, d'accompagnement à la stratégie de l'université et en lien avec le ministère. Le recteur que je suis est avant tout un universitaire, puisque j'ai moi-même, je suis professeur des universités et j'ai exercé des fonctions et des responsabilités à l'université avant de devenir recteur.
Je ne dirais pas mieux, je suis président d'université depuis seulement un an et j'apprécie de travailler avec mon recteur, je vais dire ça comme ça, avec qui effectivement on a très bons échanges, un rôle de conseil effectivement, de représentant de l'État, de représentant du ministère en région. Ce rôle va certainement d'ailleurs s'amplifier dans l'année qui vient avec ce nouveau dispositif des contrats d'objectifs de moyens et de performance, les COMP, qui vont se décliner beaucoup plus en interaction avec le rectorat et donc en interaction avec monsieur le recteur. Donc effectivement, un rôle de conseil, d'accompagnement qui est très important pour un établissement comme l'Université de Tours.
Alors, il me semble que l'Université de Tours fait régulièrement état de sa sous-dotation financière au regard du nombre d'étudiants accueillis. Donc on rappelle qu'à la fin de l'année universitaire 2024-2025, l'Université de Tours comptait 32 000 étudiants inscrits, dont 8 000 boursiers, 633 doctorants, 1348 étudiants en situation de handicap, 3686 étudiants internationaux. Alors, est-il dans le pouvoir du recteur de faire ruisseler les préoccupations de terrain en haut lieu, donc de faire savoir, par exemple, que l'Université de Tours aimerait bien une petite rallonge budgétaire?
Nous parlions tout à l'heure de la collaboration, d'abord du contrôle pour qu'il n'y ait pas de dérive financière à l'université, et c'est le rôle des représentants de l'État de manière générale. Et puis, comme nous partageons, le président porte une politique avec une équipe, une stratégie pour l'université qu'il partage avec l'État, donc avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace aujourd'hui, dont le représentant territorial est le recteur. Donc naturellement, nous portons ensemble d'abord une validation de la campagne d'emploi qui se fait devant le conseil d'administration et qui permet de recruter des enseignants-chercheurs. Nous portons ensemble la stratégie d'ouverture des formations, évidemment la stratégie recherche, et ce travail-là, évidemment, il se fait au prix d'une analyse que porte le recteur territorialement sur la situation des universités. Le recteur qui arrive hérite d'une histoire, et c'est le cas sans doute de l'université de Tours, qui, et le président le dira mieux que moi, revendique un rattrapage historique en quelque sorte sur ses financements, et le recteur porte une analyse sur cela et porte en haut lieu, lorsqu'il estime que c'est justifié, le fait qu'il puisse y avoir des demandes de moyens, des demandes de recrutement ou des besoins dans tel ou tel domaine. Et il le fera d'autant plus dans les années à venir qu'il aura un pouvoir plus important, et que j'aurai sur ce territoire un pouvoir plus important de pouvoir décider d'ajuster en fonction des stratégies des deux universités sur ce territoire, et particulièrement l'université de Tours.
C'est vrai que depuis mon arrivée à la présidence de l'université de Tours, avec mon équipe, j'ai eu à cœur de montrer à la communauté, mais ça avait déjà été le cas dans la campagne, parce qu'il y a une campagne pour être élu à la présidence de l'université, montrer à quel point nous avions à cœur de développer un projet, une stratégie pour l'établissement. On l'a fait connaître autour de nous. Bien sûr, ce sont des choses pour lesquelles j'ai des échanges réguliers avec monsieur le recteur. Cette orientation stratégique, elle a été aussi présentée au ministère, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas être finalement soutenu à la hauteur de cette ambition qu'on a pour l'établissement, avec un grand retard dans la dotation de l'établissement par rapport à la moyenne nationale. Alors, je sais bien que la situation est complexe actuellement, la situation budgétaire de l'État, de notre pays, mais je rappelle quand même régulièrement ce sentiment d'injustice quand on voit qu'effectivement nous avons une différence de 1 000 euros par étudiant sur la dotation par rapport à d'autres universités. 1 000 euros ne serait-ce que pour être dans la moyenne. Alors vous l'avez dit, nous avons 32 000 étudiants. Après, de façon très honnête, il y en a 4 000 qui ne sont pas à l'université de Tours vraiment, qui sont en double inscription sur les étudiants qui sont dans les instituts de formation en soins infirmiers sur tout le territoire de la région centre. Ils ont une double inscription dans leur IFSI d'origine et à l'université de Tours. Mais on en a 28 000. On en a 28 000 qui sont effectivement à l'université, physiquement à l'université de Tours. Et effectivement, ça fait un delta de 28 millions pour, encore une fois, pour être dans la moyenne, c'est-à-dire vraiment pour un rattrapage pour se situer dans la moyenne des établissements en France. Donc c'est un peu frustrant quand on a des ambitions, quand on a l'envie de développer un projet stratégique pour l'université de Tours, d'être à ce point sous-doté. J'échange régulièrement avec monsieur le recteur sur ce point. J'ai pu le faire aussi en direct avec le monsieur le ministre. On comprend bien que c'est compliqué vu la situation budgétaire de notre pays, on le sait bien, mais j'avoue qu'il y a un sentiment d'injustice, oui, et que je le rappelle très régulièrement.
Merci. Donc, rappelons que, excusez-moi, on n'est plus dans la période Covid, mais je tousse quand même. Alors, oui, nous sommes aujourd'hui à l'IUT de Tours pour cette émission spéciale Journée Porte Ouverte, voilà, puisque j'imagine que vous allez faire la tournée de tous les sites de l'Université de Tours. Alors, on peut s'intéresser peut-être un peu au modèle de l'IUT. Donc, des petites promotions, il y a quand même une certaine sélection, l'accompagnement est renforcé. Est-ce que ça vous semble être un modèle d'enseignement supérieur à défendre ou à développer, entre guillemets, quoi qu'il en coûte ?
Moi, je pense que c'est un très bon modèle. C'est effectivement des petits effectifs qui permettent un rapprochement important entre les étudiants et leurs enseignants. Ce sont aussi des formations très tournées vers l'entreprise via l'apprentissage, donc la formation en alternance. Et on sait que c'est un formidable tremplin pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Donc c'est un modèle intéressant qu'on peut sans doute pas décliner à toutes les composantes de l'université, ces composantes qui accueillent des effectifs importants d'étudiants. C'est un modèle qui convient parfaitement aux IUT, qu'il faut soutenir, encadrer. Ce que j'apprécie dans le fonctionnement de l'IUT, c'est que ça peut servir de modèle. Je parlais de l'apprentissage. C'est quelque chose que je souhaite renforcer aussi avec mon équipe. Et ça peut effectivement donner des idées à des composantes qui feraient moins d'apprentissage. Je vois que les collègues directrices et directeurs de composantes qui de facultés plus plus classiques, finalement, comme les arts et sciences humaines, commencent à développer des formations qui se font aussi par apprentissage. Donc, et ça, je pense que c'est important aussi de croiser les expériences des différentes composantes. On a la chance à Tours d'avoir une grande université multidisciplinaire avec des facultés dans de nombreux domaines thématiques. Et j'aime bien tirer que l'expérience d'une composante puisse être transposée à une autre. Donc, le modèle en lui-même ne peut pas être appliqué à toutes les composantes, mais il y a quelques idées, quelques avancées qui peuvent être utiles à d'autres composantes. Et j'aime bien cette idée de croiser les expériences.
Je partage le point de vue du président de l'université de Tours sur ce point. Évidemment, le modèle des IUT est un très bon modèle pour le type de diplôme qui est délivré à l'université. L'IUT est très souvent, les IUT en général et cette IUT de Tours en particulier, sont très souvent innovants sur le plan pédagogique. Ça, c'est véritablement une source d'inspiration pour d'autres composantes. Le fait de pouvoir se nourrir de pratiques pédagogiques d'autres, qui n'est pas forcément le petit groupe. Moi, ma discipline originelle, c'est le droit. Il y a une tradition d'enseignement en amphithéâtre, en droit. Je pense que ça reste, pour le modèle du droit, par exemple, un bon modèle, mais ce sont les pratiques pédagogiques de ce type de modèle qu'il faut faire évoluer pour qu'elles correspondent au public étudiant que nous avons en face et pas forcément calquer un modèle IUT sur l'ensemble des modèles. Par exemple, il y a un très bon modèle qui se fait en médecine, la pratique clinique, qui a été calquée dans les facultés de droit où on a fait des clinique du droit. Donc il y a des modèles pédagogiques qui permettent effectivement d'être inspirés, et des modèles donc qui sont inspirants, et l'IUT de ce point de vue-là est souvent en pointe sur des modèles pédagogiques inspirants.
Bon, alors l'université de Tours a des campus, là, qui est un peu aux quatre coins de la ville. Alors ça va être quoi votre tournée du jour? Vous allez où après l'IUT?
Après l'IUT, nous allons à Grandmont, aux facultés des sciences, facultés de pharmacie. Après, nous allons aller au De Lyon, à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, et puis la faculté de droit, économie et sciences sociales. Et puis, nous irons sur le campus de médecine, sur le campus de La Riche, où sont les grands amphis donc pour la première année de santé. Et nous finirons par les tanneurs, sans oublier le site Cloué pour la musicologie. J'aime bien, puisque vous m'en donnez l'occasion, rappeler que des grands avantages de l'Université de Tours, c'est d'être une université dans la ville, par rapport à des universités qui ont plutôt un campus hors la ville. C'est une vraie richesse pour les étudiants d'être au cœur de la ville. C'est une richesse aussi pour les citoyens qui vivent dans une ville où évoluent des jeunes. Et moi, je tiens beaucoup à cette notion d'université en cœur de ville.
Et pour vous donner un scoop, alors je finirai moi par l'université d'Orléans, ce sont les deux universités régionales, mais nous déjeunerons ensemble et nous allons parler finances.
Parfait.
De l'université.
Alors, on va pas tous parler, je suis quand même. Dernière question pour moi, alors évidemment je ne résiste pas à vous interpeller sur l'écologie de développement durable. Alors comment mettre ces questions dans les enseignements de toutes les filières, même celles qui ne sont pas directement concernées? Est-ce qu'il y a une directive en la matière qui est donnée par le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Jeunesse, du Sport et de l'Espace? Je crois que ça s'est augmenté. Ou alors est-ce que ces préoccupations sont plus ou moins marquées selon les établissements?
Non, je crois qu'il y a une stratégie bâtimentaire qui touche à tous les bâtiments de l'État. Et on va dire, pour faire rapidement, l'université, ce sont des bâtiments de l'État, bon, pour faire rapidement la plupart du temps, ou j'allais dire exploités par un ministère d'État et par des universités. Donc il y a déjà une stratégie bâtimentaire. Ensuite, il y a un enjeu fondamental, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Vous employez une expression empruntée au président de la République avec le quoi qu'il en coûte, je vais en employer une autre, c'est ruisseler. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, la question de l'éducation à, et notamment l'éducation au développement durable et aux enjeux énergétiques, aux enjeux environnementaux, à la préservation du patrimoine historique, du patrimoine naturel, etc., aujourd'hui ruisselle sur toutes les formations, quelles que soient les disciplines à l'université. mais encore plus que ça, c'est un continuum de formation qu'il faut dans ces domaines. C'est-à-dire qu'il faut partir du scolaire, c'est ce que nous faisons, pour arriver au plus haut diplôme de l'université. Vous savez, on parle souvent, et ça depuis des années, vous avez dû l'entendre dans vos interviews, lorsque vous interrogez des enseignants, des enseignants-chercheurs, des spécialistes de l'ingénierie, de l'orientation et de l'insertion professionnelle, ils vous parlent du moins 3 plus 3. En gros, les 3 années de lycée et les 3 années qui suivent ensuite à l'université. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arriver à faire un moins 3 plus 3 sur les questions sociétales et sur les éducations A. L'éducation au développement durable et aux enjeux environnementaux, sur la lutte contre toutes les formes de sexisme, de violence sexiste et sexuelle, sur la prévention dans tout ce qui concerne les enjeux du numérique, toutes les formes d'addiction. Il faut que sur ces enjeux-là, nous renforcions ce lien moins 3 plus 3 et que ce ne soit pas simplement le lien de l'orientation qui soit mis en avant, mais un véritable continuum de l'éducation A sur des enjeux sociétaux marquants et l'environnement, évidemment, le développement durable est l'un de ces enjeux, c'est un des enjeux de ce 21e siècle.
Alors, évidemment, on a mis en place à l'Université de Tours, comme dans d'autres universités, dans les licences, un module sur la transition écologique et sociétale, c'était une demande du ministère. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans des formations qui ne sont pas en licence, master, doctorat, comme les IUT d'ailleurs, comme la santé. Mais ce sont des choses qui vont se mettre en place progressivement parce qu'on voit bien, en plus, ce qui nous aide, c'est qu'il y a une véritable appétence des étudiants pour ces formations-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur lequel on travaille. Et puis, je dirais que on n'a pas à proprement parler une licence en transition écologique et sociétale à l'Université de Tours, mais quand on regarde un peu dans toutes les formations que nous avons à l'université, il y a beaucoup d'enseignements qui tournent autour de ces questions-là. On a entrepris une cartographie de tout ce qui peut se faire en enseignement dans les différentes formations, dans les différentes composantes de l'université, pour avoir une espèce de catalogue finalement de tout ce qui touche à la transition écologique et sociétale dans les nombreux enseignements qui sont dispensés dans l'établissement.
Messieurs, votre plénière est très chargée, donc on va peut-être... Une dernière question, je crois, Rachid, que tu avais une question pour nos invités, et après, on vous libère.
Oui, je voudrais savoir concrètement, c'est quoi le but des journées portes ouvertes et quelle est la spécificité de cette journée par rapport aux années précédentes?
L'université est ouverte aujourd'hui pour tous les lycéens qui seraient intéressés pour venir... s'inscrire à l'Université de Tours. Donc l'idée, c'est de découvrir toutes nos maquettes de formation sur tous les différents campus. Mais au-delà de ça, découvrir aussi tout ce qui fait la vie d'un établissement. Je pense à la vie étudiante, c'est-à-dire que les associations étudiantes sont présentes. Il y a une très riche vie étudiante à l'Université de Tours. On a 108 associations étudiantes sur toute l'université. Elle est encore une fois très riche, ça tourne autour de l'accompagnement pédagogique, le tutorat, ça tourne autour de la culture, du sport, et puis aussi des aides dans le cadre de la précarité étudiante. Donc c'est vraiment de très très belles missions de ces associations étudiantes. J'aime bien aussi rappeler que l'université, c'est un lieu de formation et de recherche. Et nos formations sont adossées à la recherche. Et c'est aussi cet aspect-là qu'on essaye de faire découvrir aux jeunes qui souhaiteraient s'inscrire à l'Université de Tours. Et moi, je ne peux que les encourager à venir au JPO et ensuite à venir s'inscrire à l'Université de Tours parce que c'est un bel établissement avec des belles composantes.
D'ailleurs, cette ouverture de l'université, j'allais dire aujourd'hui, l'Université de Tours reçoit, en fait. Elle reçoit ses futurs étudiants, elle reçoit les parents. Mais c'est tout au long de l'année, en réalité, que l'Université de Tours et les universités s'investissent pour aller... expliquer les formations, l'orientation, l'ambition scolaire, l'ambition universitaire, c'est un des piliers de l'égalité des chances. Et les universités et l'Université de Tours participent aux forums de l'orientation, participent aux nuits de l'orientation, des collègues vont dans les lycées expliquer ce que sont leurs formations, etc. Donc aujourd'hui, c'est une journée... j'allais dire totem, une journée symbolique où l'université reçoit, mais tout au long de l'année, l'Université de Tours et les équipes et derrière le président, je remercie l'ensemble des collègues enseignants-chercheurs et l'ensemble des collègues enseignants et des collègues qui s'investissent pour la pédagogie dans le domaine administratif aussi pour l'orientation parce que c'est un travail de fond. Nous avons besoin dans cette région académique de travailler sur l'ambition de casser les plafonds de verre, de sortir des assignations territoriales, et nous y travaillons au quotidien pour cette jeunesse-là, et je remercie l'Université de Tours et ses personnels.
Bons entendeurs, et bien merci à vous, Philippe Rongeard, président de l'Université de Tours, et Jean-Philippe Agresti, recteur de l'Académie d'Orléans-Tours. Une courte pause musicale et nous recevrons sur notre plateau Laetitia Blantan, chargée de mission vie étudiante. A tout de suite.